Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1278, en ce samedi 10 mai. J'espère que tout le monde va bien. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues sur le 666. Dans ce 1278e numéro, du hard rock, du métal, du blues rock, cette semaine, vous allez peut-être pas reconnaître votre émission. C'est l'animateur Greg Bellery qui fait déteindre son émission Hard Rock et vous sur celle-ci, en animant ce 59e My Rockers pour vous faire aimer le métal et le hard rock. Nous écouterons donc Greg parler avec passion de ses musiques qu'il anime depuis l'enfance et des multiples références qu'il égrène. Nous immergerons dans plus de 50 années de musique, de Van Halen à Gojira, en passant par Iron Maiden et Ugly Kid Joe, et sans oublier son préféré, Bon Jovi, dont le superbe Dry County clôture la séquence. Et puis la rubrique des incontournables est pilotée cette semaine par Patrick Payard, qui a choisi de revenir sur un bel album du regretté John Mayall, sorti en 1968, intitulé Blues from Laurel Canyon. Nous débuterons avec This Time, un extrait du disque du mois Soul in Blue, signé Tad Robinson, qui vient de sortir chez Delmark Records. Tad Robinson, d'ailleurs, vous pouvez écouter toujours son interview diffusée la semaine dernière dans l'émission. Voici un extrait de cet album, ça s'appelle This Time. Found me a new tell by the way she makes this poor man feel. I never thought she'd be mine, but I dreamed of her all the time. Hey, hey, yeah. Took a real long time, but now I'm not blinded by the light. I guess good luck can smile on a guy. I never thought she'd be mine, but I dreamed of her all the time. And change can come, it feels so right. Oh, I know this time is no lie. Ooh, look at us now. We made it work somehow. We've got the life that love will arrive. When she's here, yeah. Monsieur Tal Robinson, extrait de l'album Soul in Blue, disque du mois pour Sweet Home Chicago. Voici le numéro 59 de My Rockers avec Greg Bellery. My Rockers numéro 59 avec un nouvel invité, Greg Bellery. Bonjour Greg.
Bonjour Marc.
Et alors je parle à un collègue là, tu fais de la radio aussi.
Oui.
En deux mots, quand, quelle émission, quel style, vas-y Greg.
Quand, c'est l'émission Hard Rock et vous, donc quand là, on dit Hard Rock et vous, à première vue la consonance est bel et bien pour du Hard Rock.
Ouais.
Typé très années 80, les Bon Jovi, les Scorpions, les Def Leppard, tout ça. Donc c'est vraiment typé sur ce genre de musique. C'est le mardi soir, le troisième mardi soir. Et pareil que toi, quelque part, on l'a retrouve aussi en replay.
Mmh.
Donc c'est quand on veut et quand on a envie de se faire plaisir.
À quelle heure l'émission sur Radio 666 ?
Elle est à 20h30.
20h30, troisième mardi du mois, c'est ça ?
C'est ça, ouais, tout à fait.
Très bien.
Blues Actu Radio.
Blues Actu Radio.
Blues Actu Radio.
Blues Actu Radio.
My Rocker, c'est aussi sur Blues Actu Radio. Alors, on va en venir d'abord, Greg, à essayer de te connaître un petit peu, te découvrir. Alors, on te connaît sur Internet pour faire pas mal d'activités. Et ben, d'abord, tes activités professionnelles, c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui, mais également des activités autour du cinéma.
C'est vrai.
L'artiste qui fait l'objet aujourd'hui de cette émission, c'est pas quelqu'un tout à fait étranger au monde du cinéma. On va s'en rendre compte tout à l'heure quand tu vas nous en parler. Mais avant, je voulais savoir, Greg, comment est-ce que tu t'es mis à écouter de la musique ? Est-ce que c'est parce que les parents avaient une chaîne IFI, le grand frère avait des disques à la maison ? Comment ça s'est passé ?
C'est la deuxième solution. Les parents, à l'époque, ils avaient une chaîne IFI, mais interdiction de toucher.
D'accord.
Et puis, sincèrement, ce qu'ils écoutaient n'était pas vraiment ce que j'écoutais. Non, c'est, donc, comme tu l'as indiqué, la deuxième solution, c'est mon frère qui a 9 ans de plus que moi, qui, lui, était déjà orienté hard rock. D'où le fait aussi qu'il y a une petite différence entre lui et moi dans les styles musicaux. Lui a commencé à écouter vraiment début des années 80. Donc, les Guns N' Roses, Appetite for the Destruction. I see your sister. Sunday dress. She's on the free, she pounds her best. She's on the tape, no need to try. She's ready to make. It's so easy, easy. When everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy. When everybody's trying to please me. Les Guns N' Roses, là pour le coup, vraiment étaient chez nous dès le premier jour. Donc j'ai découvert les Guns. Il y avait des groupes japonais, Loudness, les groupes américains, Dokken, Great White. J'ai été bercé par le hard rock des années 80. Quelque part, ça arrivait petit à petit.
Et ça, c'était sa chaîne IFI à lui ? Comment ça se passait ?
Ouais, c'est ça. C'était sa platine. C'était les tourne-disques à l'époque. Hein,
ouais.
Donc il achetait vraiment ou le vinyle ou lequel c'était le 45 ou le 33 tours. Et si, il y avait quand même les cassettes. Si, si. Je dis bêtises, il y avait quand même des cassettes. Je me rappelle maintenant de quelques cassettes. Bon, on avait la salle de jeu qui était au sous-sol, donc clairement c'était pas une salle de jeu, c'était les enfants, vous êtes en bas, vous emmerdez surtout pas les parents. Et nous, bah, on avait trouvé notre havre.
Donc vous aviez toute liberté.
Voilà, c'est ça. Et vraiment, là, j'ai adoré ça.
Et ça t'a donné envie de jouer de la musique, d'en faire ?
Strictement pas.
Non. T'as jamais essayé avec un balai, une corde ?
Non. Oui, bien sûr. Alors, de l'air guitare, je dirais que. Et même du air vocal, surtout.
Ouais.
J'aimais bien me prendre pour un chanteur. Vu que j'ai pas la voix, je me suis au moins autant faire tant que tel.
Autant avoir l'attitude.
J'ai ni la voix, ni les cheveux. Remarque bien. Non. Alors, malencontreusement, moi, je dirais que c'est une qualité, mais je suis gaucher. Mais c'était un défaut dans les années 80.
Je suis 80. Bien d'accord aussi que c'est une qualité.
Et dans les années 80, malheureusement, dès que tu rentrais dans un magasin de musique, tu disais que t'étais gaucher. Oh, c'était tout un bordel pour dire bah, il fallait la guitare à gauche et tout.
Ouais.
Alors que Eddie Van Halen, Hendrix, je crois aussi.
Albert King.
Voilà, il y a quand même.
Paul McCartney, enfin, il y en a plein. Hein.
Voilà, il y a quand même du palmarès. Mmh. Et pour autant, tu rentrais à l'époque dans un magasin, on disait ah ouais, mais il faut adapter tout sur le gaucher. Et en fin de compte, grossièrement, je vais prendre le terme qu'emploient beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, la flemme. Et quelque part, j'ai préféré partager ma musique comme toi tu le fais. Alors, tu es peut-être musicien aussi à
ouais,
côté.
Ouais.
Mais j'ai pris rapidement plaisir à me dire non, c'est pas obligatoire la musique. J'avais pas envie d'être sur le devant d'une scène, quoi que ce soit. Mais partager mes goûts, j'adore partager. Et surtout, j'aime bien faire comprendre à les personnes qui me disent « Ah, le hard rock, j'aime pas ça. C'est les mecs qui hurlent. » Ils ont... Et en fin de compte, leur faire écouter et ça, leur dire « Ça, c'est du hard rock.
Ouais. »
Alors, trois quarts du temps, on me dit « Ah non, ça, c'est pas du hard. » Non, c'est pas parce que c'est commercial que ce n'est pas du hard. Queen était un groupe de hard rock à la base. I was told a million times of all the truth.
troubles in my way. Might you grow a little wiser, a little better every day? But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I'd still be where I started, red and blue.
Était un groupe de hard rock à la base. Et on a voulu lui donner cette étiquette rock commercial, mais écoute, les premiers albums de Queen, c'était du hard rock.
C'est un peu la paraphrase du type qui dit « Moi, j'aime pas le classique, mais ouais. ça, j'adore. » Voilà. C'est un peu pareil pour le hard. Alors, tu t'es c'est fait ça. Un peu le chantre de la promotion de cette musique,
ouais.
mais bon, je reviens sur ce que tu disais, la flemme peut-être, mais le fait de jouer de la musique, ça n'implique pas forcément d'en faire des concerts et de se produire devant des gens. Ça peut aussi être joué simplement dans une cave avec les copains. Enfin, on a tous des exemples comme ça.
On est entièrement d'accord. Alors, pour le coup, j'ai pas lié ou à la radio comme toi, où j'ai organisé quand même pendant 13 ans un festival qui s'appelait les Rockalises.
Mmh. T'as quel endroit ça ?
C'était à Saint-Martin-de-Fontenay.
Ouais.
C'était à Saint-Martin-de-Fontenay.
Au sud de Caen.
Voilà, tout à fait. On a reçu des groupes comme Pretty Maid, Survivor, Eyes of Tiger, pour ceux qui connaissent la BO de Rocky.
Dans la grande salle de Saint-Martin-de-Fontenay.
L'espace Coisel, oui.
Ah ouais, d'accord.
Donc pendant 13 ans, on a reçu des groupes nationaux, régionaux, parce qu'on mettait aussi en avant des groupes régionaux, pour pouvoir permettre à ces groupes locaux de pouvoir aussi voir des groupes internationaux. On a reçu des groupes qui ont fait l'Eurovision. Ça venait de Suède, Danemark, États-Unis, Allemagne. Donc franchement.
Eurovision Finlande ? Non, pas l'Ordi.
Non, pas. L'ordi, à
l'ordi.
Savoir qu'il passe prochainement en Normandie,
ah ouais.
du côté de Saint-Lô.
D'accord.
Donc voilà. Mais en soi, non, c'était pas l'ordi, c'était Wigwam qui avait fini deuxième ou troisième pour représenter la Norvège de mémoire.
Est-ce qu'il y a une particularité dans le monde du hard rock par rapport à d'autres styles musicaux ? Est-ce qu'il y a une confrérie ? Est-ce qu'il y a une communauté des amateurs de hard rock ? Et puis, est-ce qu'il y a aussi des chapelles ?
Ouais, je pense qu'il y a quand même une confrérie. Il y en a peut-être aussi dans d'autres aspects musicaux que je ne connais peut-être moins, comme le rap.
Il y en a dans le blues,
mais
c'est
voilà.
pour ça que je te pose la question.
Mais bien sûr, tu sais, il y a toujours ce signe un peu du diable. C'était Ronnie James Dio qui a lancé ça.
Ah ouais.
Mais en soi, très vite, tu tombes sur un hardos. On va parler hard rock. Tu vas dans des magasins spécialisés de musique. Dès que tu vas commencer à voir que le mec va taper dans du Maiden, tu vas essayer de vouloir parler avec lui, c'est bête, mais t'as envie de partager, de lui dire ah toi aussi t'aimes bien, et hop c'est parti. Donc oui tout à fait. Et puis bien sûr qu'il y a les festivals.
Alors en antenne on parlait du Hellfest, c'est devenu un petit peu une foire, un festival, tu disais un carnaval étudiant. Ça en est arrivé là, le Hellfest, ou ça continue à avoir une âme quand même?
Ça devient un peu le problème, c'est vrai. Certains autres festivals ont compris d'ailleurs qu'il y avait cette menace qui commençait à être au-dessus du Hellfest. Le Motocultor, eux, se revendiquent vraiment très très métal.
C'est où ça, le Motocultor?
Pareil, sur la région Bretagne.
D'accord.
Les Bretons sont quand même très très férus de métal.
Alors Clisson est plutôt dans les Pays de la Loire, mais c'est juste à côté de la Bretagne.
On est d'accord, on est dans le 44. Ouais. Mais bon, quand je dis
la vraie Bretagne, la grande Bretagne.
Bretagne. J'ai passé toute mon enfance en Loire-Atlantique, donc je sais que la Bretagne.
D'accord.
Mais en soi,
bon, parenthèse, au moment du découpage en 2016, ils auraient mieux fait d'éclater les Pays de la Loire en trois régions. Ça reste personnel.
Mais de fait, le Hellfest, pour revenir à ta question, Marc, reste toujours un festival emblématique, et c'est quand même très bien que ce festival existe. C'est l'un des plus gros festivals français et européens, et c'est le deuxième plus gros festival de métal européen et pratiquement mondial après le Wacken. Maintenant, c'est vrai que, alors c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui je comprends aussi Ben Barbeau de se dire qui on va pouvoir faire venir cette année en tête d'affiche. Tous les ans tu te dis, bah il y a du Metallica, du Maiden, tout ça, mais par récurrence tu peux pas faire tous les 2-3 ans le même groupe.
Mmh.
Ou t'as les personnes qui vont dire, ah mais oui on les a déjà vus, oui de fait, mais alors qu'est-ce que l'on fait, parce qu'il y a pas non plus une ribambelle de tous ces groupes. Aerosmith s'arrête prochainement, Scorpion va bientôt aussi cesser, Bon Jovi à l'heure actuelle a les problèmes de voix qui malencontreusement feront qu'à mon avis on ne le verra pas sur le Hellfest.
Et si DC continue ?
ACDC continue, mais ACDC n'a jamais été un groupe de festival. Si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de festivals qui ont été faits avec ACDC sur scène.
Donc ça pose un problème d'avoir vraiment des têtes d'affiche dans ce festival-là qui vont perdurer. Quelle va être la programmation du Hellfest en 2035, par exemple ? Aucune idée.
Sans aller si loin, cette année, tu as Muse qui est sur scène. Et c'est vrai que Muse, c'est pas du métal.
C'est moins connoté. Hein.
Maintenant, à contrario, j'ai vu Muse au Stade de France ou à Beauregard ici, et ça sonne rock. Qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que l'on ouvre un peu la sphère du métal et du hard rock vers du groupe un peu rock ? Muse, pour moi, a des similitudes avec du Queen. Ce côté un peu grandignolesque de musique, un peu opéra, tout ça.
Glamour, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on ouvre un peu les œillères pour se dire on va prendre des groupes comme Muse. C'est un départ. Est-ce que demain on n'aura pas Coldplay, des choses comme ça ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas dire. Même si je fais la promotion du Hellfest depuis très longtemps. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi le public qui est là. C'est dommageable quelque part parce que les places se vendent à une vitesse tellement importante.
Alors, ça, justement, j'ai une question là-dessus. C'est une question de béotien, tu vas voir. Hein. C'est complètement débile comme question. Mais comment se fait-il que les gens achètent et arrivent à remplir et acheter vraiment tous les tickets en quelques heures alors qu'on n'a pas encore la programmation en tête ? On ne sait pas qui vient, mais on fait une confiance aveugle dans les organisateurs, bien sûr.
Je ne sais même pas si c'est une confiance aveugle. Parce que moi j'y vais, je te dis, je fais la promotion du Hellfest, donc j'ai l'accréditation presse qui fait que j'y vais tous les ans. Je vois depuis de nombreuses années, depuis 4-5 ans, que le public a drastiquement changé, mais il a changé pas parce que les gens font confiance au style musical, parce que les trois quarts du temps, les personnes ne connaissent même pas les grands groupes comme Maiden.
Tu parles d'un effet de mode donc.
C'est un effet de mode. Je connais le système des...
C'est the place to be.
Voilà, je suis là, regarde, je suis sur les réseaux et je suis au Hellfest et je fais le signe de métal alors que je n'écoute même pas de métal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux comprendre les métalleux de se dire on a eu du mal à avoir nos places, voire même ne pas les avoir, juste parce que toutes ces personnes viennent pour dire... J'étais là. C'est un peu dommage. C'est bien d'ouvrir la possibilité à d'autres publics de découvrir. Moi, je suis très content d'avoir fait découvrir le hard rock à mes enfants ou même à d'autres personnes autour de moi. Mais à contrario, je peux comprendre que les métalleux qui se retrouvent sans place, sans le sésame du Hellfest, se disent bah ouais, mais ça m'embête parce que je ne peux pas y aller. Il y a des groupes mythiques et je ne peux même pas les voir parce qu'en fin de compte, il y a maintenant peut-être 20-30% du public qui ne connaît pas le métal mais qui est juste là pour dire je suis là.
Alors, ça m'amène à une question. À partir du moment où on peut se sentir frustré en tant qu'amateur de cette musique-là, de ne pas aller dans le festival en France. Il y a la possibilité quand même d'aller à d'autres endroits et puis pourquoi pas de créer son propre comme toi tu l'as fait pendant des années au Rockali.
C'est très dur, très très dur. Ouais. C'est très difficile.
C'est quoi ? C'est de l'argent, c'est de la responsabilité, c'est de la prise de tête, c'est tout ça à la fois.
Je vais être un peu dur vis-à-vis des pouvoirs, les autorités publiques, mais la consonance du hard rock fait que est-ce qu'on doit aider un festival comme ça ? Il faut savoir que notre festival, les Rockalises, était l'un des seuls festivals, voire l'unique festival pendant 13 ans, qui était créditeur à la fin de chaque festival, chaque année.
Pourquoi a-t-il disparu à ce moment-là ?
C'est parce que c'est nous qui voulions. Ça faisait 13 ans. On n'avait pas des subventions, justement, on en parle tout de suite, qui nous permettaient de se dire on va grandir.
Se développer.
Et on revenait un peu à ce problème du Hellfest de se dire par redondance, on commençait à avoir un peu les mêmes groupes et se dire l'année prochaine, on va reprendre peut-être encore celui-ci. On n'aimait pas cette redondance de se dire on va reprendre un groupe qu'on avait eu quelque part quelques années auparavant. On avait aussi nos vies familiales qui faisaient que c'était pas évident. On avait tous beaucoup beaucoup de travail à côté, donc c'est pour ça on a préféré se dire on arrête sur une belle année avec des beaux souvenirs que faire perdurer le truc et peut-être derrière en faire quelque chose qui n'aurait peut-être plus été à l'image de ce que l'on souhaitait en deux, et je reviens vraiment là-dessus parce qu'on était quand même très honoré pendant très longtemps de se dire tous les ans on était créditeur et on n'avait pas besoin de taper à la ville où on était ou peu importe parce qu'on connaît d'autres festivals aujourd'hui, des très gros festivals en Normandie qui se plaignent de leur déficit. Nous on était créditeur et pourtant on était dans un truc quand même bien spécifique qui était le hard rock. Le Hellfest aussi peut se revendiquer être un festival qui fonctionne bien, qui est dans le vert complet. Aujourd'hui on peut connaître des gros gros festivals en France et c'est très bien qu'ils existent mais qui sont en déficit et pourtant on les subventionne à outrance.
À Outrance, je sais même pas où c'est d'ailleurs.
C'est une très jolie ville.
Oui. Outrance-sur-Mer peut-être. Alors, j'ai une autre question complètement de béotien, Greg, pour toi, par rapport, tu parles de hard rock, tu l'as dit peut-être 9, 10, 11 fois, tu n'as pas dit une seule fois heavy metal. Il y a une grosse différence entre ces deux styles musicaux, pour les gens, pour les gens dont je fais partie, parce qu'on entend souvent, mais ça c'est pas un groupe de hard rock, c'est un groupe d'heavy metal. Ok, c'est quoi la différence vraiment ?
Alors oui, parce qu'il y a plusieurs étiquettes après dedans. J'aurais tendance à dire que n'importe quel hardos, d'ailleurs on définit par le terme du mec, c'est le hardos. On va pas dire le heavyos.
On dit le métalleux quand même des fois.
On dit le métalleux bien sûr, mais c'est la même. Quand je dis hardos, je mélange tout. Le speed metal, le power metal, le thrash metal. Le death metal, même si je l'écoute pas, parce que là, de fait, c'est vraiment du
guttural,
tout ça. Oui, c'est ça. Et au contraire, il y a des très bons groupes. On peut parler notamment d'un groupe, alors pas dans le death metal, mais le thrash metal, Gojira. Groupe français des Landes qui a fait l'honneur d'être aux Jeux Olympiques. Merci Thomas d'avoir mis en avant un groupe de métal aussi violent que Gojira et qui ont fait un tableau sublime.
Et qui a été récompensé aux États-Unis pour ça.
On est entièrement d'accord. Et tu vois, c'est pareil. On te met Gojira sur la scène en disant waouh, c'est quoi ce groupe, machin. Gojira est l'un des plus gros vendeurs de disques en France parce que le rap et le métal sont pratiquement les plus gros vendeurs. À l'heure actuelle, le métalleux ou le hardos ou le rappeur aime encore l'aspect physique de se dire je détiens l'album et pas sur des plateformes de streaming.
Ouais, ça c'est vrai aussi pour le blues. On
est et aussi peut-être pour le blues, tu vois.
Pour le jazz, ouais. Greg, ce que je te propose, c'est d'égrener avec toi une liste de groupes que tu as choisi.
Ouais.
Et puis peut-être nous dire aussi pourquoi. On va écouter quelques extraits de cette discographie que tu as préparée avec Def Leppard tout d'abord. Moi qui suis un petit peu plus âgé que toi, je me souviens d'avoir acheté un album de Def Leppard, c'était en 81.
Ouais, donc
je venais juste d'avoir 18 ans.
On Through the Night avec le camion, je pense.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Et je l'ai revendu très cher d'ailleurs, un peu plus tard, quand mes goûts ont un petit peu évolué.
C'était vraiment leur premier album et il avait encore cette consonance très anglaise. Parce que Def Leppard, on le dit très régulièrement, c'est le groupe l'anglais le plus américain qui soit. Parce que leur style est très orienté après. Il faut savoir que l'album Hysteria est l'un des albums les plus vendus. Il fait partie des 10 albums les plus vendus dans le monde. Mmh. Et il y a ce son, c'était Mutt Lange que l'on connaît en tant que producteur. Mutt Lange a produit Shania Twain par exemple, donc il a une sphère en termes de producteur énorme. Et c'est lui qui avait fait l'album Hysteria. Il y a un gros son derrière. Mais c'est vrai que le premier album dont tu parles avait encore cette consonance New Wave of British Heavy Metal et qui était très très bonne.
Ça faisait partie des trucs que j'achetais à l'époque avec Angel City. Je sais pas si tu te souviens de ce groupe
australien.
Bien sûr.
Alors, Angel City qui est devenu V Angels après. Il a fallu retirer City, mais c'était V Angels et c'était des Australiens. Très très bon choix, bravo.
Ozzy Osbourne, tu nous as préparé un extrait de
Mama I'm Coming Home de l'album No More Tears.
Pourquoi Ozzy Osbourne, c'est quelqu'un de particulier, c'est quelqu'un qui a une aura particulière.
Alors, oui, bien sûr, il a une aura particulière parce que avant sa carrière solo, il était surtout connu comme le chanteur cultissime du groupe Black Sabbath.
Ouais.
Et on peut pas retirer ce côté. On peut remarquer en tout cas que l'Angleterre fait figure de pionnière dans le hard rock, Black Sabbath et de Birmingham de mémoire. Et c'est anglais et c'est quand même le groupe de heavy metal qui a lancé tous ces groupes derrière, Metallica, tout ça. Tous te diront, on a été influencé par Black Sabbath.
Le groupe Wasp avec l'album Wasp, là on est en 1984, I Wanna Be Somebody.
Wasp fait partie des groupes que j'ai vus régulièrement. Moi, dans la musique, c'est la voix. La voix m'apporte très rapidement. Il y a des groupes que j'adore musicalement et dès que j'entends la voix, je fais « Ah !» Ça passe pas.
Mmh.
C'est dommage, mais c'est
parce
comme ça.
Parce que c'est une question de quoi ? C'est une question d'harmonique ? C'est une question de mélodie ? C'est une question
je sais
de
pas.
Timbre ?
Ouais, c'est ça, peut-être, mais la voix de Blocky Lawless, de Wasp, m'a immédiatement interpellé à l'époque. J'ai dû les voir une dizaine de fois. Et je pense que c'est ça, j'ai l'ensemble de leur discographie. Wasp fait partie des 3-4 groupes pour moi qui me sont chers. C'est dommage d'ailleurs, ils sortent moins d'albums, mais on va en revenir à ça d'ailleurs. Ils arrivent, ils ont tous 60-70 ans petit à petit.
Mmh.
Mais c'est vrai que Wasp, beaucoup auraient pu te sortir. Je vais mettre du Guns N' Roses, du AC/DC, du Metallica. Tous ces groupes-là, je les respecte et j'ai des albums de ces trois groupes. Mais ça n'a jamais été vraiment ces groupes-là qui m'ont marqué. J'ai peut-être eu cette chance d'avoir un frère qui me baignait déjà dans ça. Et les grands groupes généralistes que beaucoup écouté à cette époque-là. Moi, j'étais déjà plus pointu.
Ouais, ouais.
Et j'allais sur du Cinderella, du Dokken, du Lowness, Rit White. Donc, j'avais déjà des consonances autres que du Axel Roses, que j'adore. Is Your Illusion, tout ça, sont très bien. Mais j'allais un peu plus loin. Et Wasp était déjà pour moi un groupe où je me suis dit, j'adore sa voix, j'adore le rythme de Wasp.
Le groupe extrême avec l'album Pornographity, Dance yes. to Decadence.
Alors c'est ce côté hard rock funky, pour moi c'est le guitariste, il est juste hallucinant, c'est Nuno Bettencourt qui a son style très très gypsy, hein, et il a ce côté manouche gitan qui fait qu'il a quelque chose et un aura. Il fait partie pour moi des 3 ou 4 meilleurs guitaristes au monde, en tout cas pour moi, d'accord. Il est juste incroyable et extrême. On connaissait par Move and Word qui était leur balade, mais cet album Pornographity est juste absolument dantesque. Il y a ce côté funk derrière, et ça j'adore, oui. J'adore extrêmement.
Petite parenthèse, tu viens de prononcer le mot gitan. J'ai ouais. encore vu il n'y a pas très longtemps un guitariste, mais ça date des années 30, cette vidéo complètement hallucinante,
ouais.
où on voit un gars, un gypsy jazzman, faire du tapping. Quoi. Et c'est pas du tout Eddie Van Halen qui a inventé ça. Quoi.
Non, c'est, je dirais, oui, c'est vrai que tout le monde a tendance à dire qu'avec Eruption, Eddie Van Halen a marqué les esprits.
Mais oui.
Par rapport au tapping.
Ce fameux générique de Bernard Lenoir, Feedback.
Tout à fait, complètement, bravo. Oui. Mais c'est vrai que on va dire qu'il a peut-être mis en avant ce qu'on mettait, comme tu dis, dans une sphère. Bah, peut-être que les gitans faisaient ça, mais on peut dire quand même que c'était un environnement très marginal, qu'on ne mettait peut-être pas encore autant en avant les guitaristes gitans qui sont exceptionnels.
Ah oui.
Mais c'est vrai que le tapping ne vient pas de Eddie Van Halen, mais c'est peut-être lui, en tout cas, qui a montré au monde entier qu'on pouvait jouer la guitare autrement.
Un artiste qu'on voit et qu'on entend assez peu, Ugly Kid Joe.
Ugly Kid Joe, ouais. Alors moi ils m'ont énormément marqué. Je te parlais tout à l'heure, ça fait longtemps que je fais de la radio, mais ça fait aussi très très longtemps que je fais de la promotion de groupes sur internet. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer tous ces groupes là. Ugly Kid Joe fait partie des groupes qui m'ont énormément marqué. Quand je les ai vus la première fois, j'en ai chialé parce que on arrive un peu à ce que je te disais. Mon frère a 9 ans de plus que moi. Pendant très longtemps, c'est lui qui m'a fait découvrir des sons. Mais comme tous, au bout d'un moment, lui continuait à écouter ses propres sons sans regarder un petit peu ce qui se passait autour. Dans les années 90, c'est arrivé Ugly Kid Joe avec American Least Wanted, Everything About You, BCB, Cats in the Cradle, qui était une reprise d'ailleurs. La première fois que j'écoutais, je fais waouh, Klaus Ekstad et tout. Je fais waouh, c'est dingue. Et là, j'ai été un peu fier de me dire pour une fois, je vais faire écouter ça à mon
frangin.
C'est
toi qui l'as fait découvrir.
Voilà, je fais tiens, Franck, écoute ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Oui, un peu blasé, ouais. Vas-y, fais écouter. Et là, me fait bah, c'est énorme ce groupe. Et j'étais quelque part hyper content de me dire ça y est, je peux lui faire découvrir des trucs. Je pense que c'est un peu ça qui a fait. J'adore Ugly Joe, je les ai vus un nombre incalculable de fois. C'est des mecs d'une gentillesse de dingue. American Least Wanted est leur album le plus connu. Je ne peux que vous conseiller d'écouter tout le reste. Ils sont dantesques.
Je te disais tout à l'heure avoir acheté bien longtemps un album de Def Leppard. C'est aussi le cas du premier album de Iron Maiden que j'avais beaucoup écouté. Je me souviens le même jour, j'avais acheté le dernier à l'époque, Ted Nugent. On était vers 80.
Ouais. Ted Nugent, voilà. Sûr. Ouais.
Et donc Iron Maiden qui existe toujours. Bonjour.
Iron Maiden existe encore,
J'en discutais l'autre jour avec Devon Allman, le fils de Greg Allman,
un autre Greg musical, et qui me disait, mais Iron Maiden, c'est un de mes groupes préférés, et je suis un ami personnel de Bruce Dickinson.
Ah oui, Bruce Dickinson, qui est passé en France il n'y a pas très longtemps, parce que ce mec est dingue, il a des casquettes partout, et c'est un escrimeur absolument remarquable. Il est venu dans le nord de la France, en toute modestie, hein, il est venu dans une vieille MJC pour faire un combat d'escrime entre tournoi français ou je ne sais quoi. Le mec est arrivé avec ses grands cheveux longs. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté sans savoir que c'était le chanteur d'un des plus grands groupes au monde.
C'est pas grave.
Et mais voilà, c'est juste génial.
Il y en a bien qui prennent le métro avec Roger Waters.
C'est vrai, alors bravo si tu l'as eu. Mais Iron Maiden, bien sûr, là on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Guns N' Roses, AC/DC, tout ça, sont des groupes que je respecte énormément. Iron Maiden, moi j'ai toujours trouvé qu'ils savaient se renouveler. Ils n'ont jamais fait de concessions. Ils ont toujours eu de la musique qui n'était pas obligatoirement très commerciale. Et pourtant, à chaque fois, tu fais écouter Maiden et tout le monde te dit « Ah mais c'est pas mal ça !» Il y a cette image de Maiden avec leur pochette, avec Eddie, qui fait que tu dis « Waouh, ça va être violent et tout !» Et en fin de compte, Maiden a cette particularité que tu entends tous les instruments.
C'est du rock mélodique, je trouve.
Ouais, il y a ce côté un peu progressif aussi.
Ouais, et... tout sur les premiers...
Alors, les premiers albums dont tu me parles, c'était Paul Di'Anno qui chantait à cette époque-là. J'étais moins fan de Paul Di'Anno. Il y avait encore ce côté très punk. Les deux premiers albums d'Iron Maiden avaient ce côté anglais punk. C'était assez... voilà. Moi, je suis quand même très, très féru de Bruce Dickinson qui arrivait juste après avec l'album The Number of the Beast. C'est pas celui-ci, d'ailleurs, que j'ai évoqué. C'est Somewhere in Time avec West Eddy Hearns. Ouais. West Eddy Hearns, dès que tu entends le ding 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 ding. Génial.
Avantasia.
Avantasia, oui, tout à fait. Avantasia, pareil, font partie des groupes que j'ai découverts parce qu'ils sont arrivés au même moment que moi, je commençais vraiment à m'ouvrir aussi à la musique. Mon frère connaissait pas ces groupes-là. Donc là, c'est le hard rock germanique. Faut savoir que les États-Unis sont connus pour le hard rock, l'Angleterre, l'Australie, maintenant beaucoup de pays d'ailleurs scandinaves, mais l'Allemagne est aussi un gros, gros berceau de métal. Hein.
Scorpion,
Udo, Accept, Gamma Ray, Halloween.
Accept, oui, j'avais oublié.
Gamma Ray, Halloween, tant d'autres.
Ouais.
Et c'est vrai que Avantasia, c'est le groupe, j'aurais pu dire Avantasia ou Edguy avec Tobias Sammet. Je suis un dingue de Tobias Sammet. Je suis tombé amoureux de ce qu'il fait. Pour moi, c'est un compositeur de génie. Il a une quarantaine d'années. Avantasia, j'ai été les voir d'ailleurs notamment cette année à l'Olympia. Elle a la particularité de faire venir plein de chanteurs d'autres groupes sur scène. C'est un opéra metal. Il y avait sur la scène le Ronnie Atkins, le chanteur de Pretty Maids. Il y avait Eric Martin, le chanteur de Mr. Big, To Be With You, que tout le monde connaît. C'est un chanteur américain. Et je suis pas très objectif. Il y a 2-3 artistes où je vais jamais être objectif. Tobias Sammet, je suis strictement pas objectif.
Bon, quand
je
on est très très
dingue,
fan,
dingue,
voilà.
Dingue, voilà.
Effectivement, Greg, tu parlais tout à l'heure de ton grand frère. Moi, j'ai mon petit frère qui, lui, dans les années 90, écoutait beaucoup Billy Idol. Je m'aperçois que tu l'as mis dans ta liste aussi, avec l'album éponyme Billy Idol.
Ouais.
Sister, what a
only one. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again.
Pourquoi cet artiste en particulier?
Alors pourquoi alors j'aime bien la voix de Billy.
The White Wedding, c'est un tube, c'est passé partout. Quoi,
on est d'accord. J'aime la voix de Billy, ça c'est indéniable. D'ailleurs, il faut le savoir qu'il va sortir un album cette année, très prochainement. Ça fait à peu près 10-15 ans qu'on attend quand même des nouvelles de lui. Cette année, il revient sur le devant de la scène. J'espère qu'il fera un zénith en France, s'il te plaît, Billy, reviens. Pourquoi Billy? Tout bonnement parce que je suis un fan invétéré de son guitariste Steve Stevens. Steve Stevens, pour moi, c'est le guitariste. Attention, hein, il y a d'autres guitaristes qui sont meilleurs que lui, mais je ne sais pas pourquoi. Steve Stevens, j'ai toujours adoré. Alors, ce son de guitare, il faut savoir qu'il avait été musicien de Michael Jackson sur Dirty Dine.
Quand tu dis d'autres sont meilleurs, tu parles au niveau technique.
Au niveau technique,
ouais,
bien sûr, probablement.
Oui, on peut toujours trouver bien meilleur
bien
au niveau
sûr.
Technique. Mais il y a une fibre, enfin, moi c'est pareil dans le blues, il y a toujours quelque chose qui te fait dire bah, « Ah non, celui-là, franchement, il me touche beaucoup plus. » Par exemple, il y a Jimi Hendrix qui disait, à la question qu'on posait sans pitié en allemand au grand guitariste, on lui demandait « Quel est votre guitariste préféré ?» Il répondait invariablement « Hubert Sumlin ». Bah écoute, ouais. Hubert Sumlin, tu verras, c'est pas un fin technicien.
Ouais.
Ça a été guitariste de Hollywood pendant des années.
Ouais.
Mais c'est un type hyper vrai, hyper authentique, hyper sincère et qui met tout son esprit, toutes ses tripes dans ses doigts et dans sa guitare.
Ah, mais Steve Stevens, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a vraiment d'autres. On parlait tout à l'heure de Eddie Van Halen, on peut parler de Malmsteen, même de nouveaux guitaristes actuellement. Il y en a tellement, tellement qui sont au minimum aussi bons que lui. Slash, par exemple, Slash n'avait jamais été un grand technicien.
Et qui vient de sortir un super album de blues.
De blues. Qui est très très bon,
ah,
bravo.
Oui, oui.
Mais justement, Slash.
Avec Brian Johnson au chant sur un morceau.
Brian Johnson, il y en a tellement d'autres. Je ne peux que vous le conseiller. À première vue, je ne suis pas le seul. Marc aussi peut vous conseiller. C'est un très bon album de hard rock blues. Slash a toujours été, il s'est toujours revendiqué, grand fan de blues. D'ailleurs, le hard rock n'existerait pas sans le blues. On ne peut pas le retirer. Ça, c'est une certitude. Mais on revient à Slash. Slash n'a jamais été le grand, grand guitariste, mais il avait ce feeling que tout le monde aime. Mm-hmm. Et il y en a un qui a toujours été très fort sur ses guitaristes et se dire ils ont un feeling. On revient sur Michael Jackson.
Mm-hmm.
Steve Stevens, guitariste. Eddie Van Halen sur Be It, Thriller, Give In To Me, Slash. On a eu Jennifer Batten. On a eu je ne sais combien de guitaristes qui sont passés avec Michael Jackson. Michael Jackson avait cette aura de se dire ça, c'est un guitariste qui a un feeling. Et il avait entièrement raison. Mmh. Il a mis en avant des guitaristes. Et peut-être que Steve Stevens, c'était par rapport à Dirty Diana. Mais j'ai toujours aimé. Et c'est vrai que Billy Idol, bah, pour moi, Steve Stevens, je ne pouvais que revendiquer. Je suis un fondu de Steve Stevens.
Et puis, Gotthard. Alors, un groupe que je ne connais pas, que tu vas nous présenter.
Gotthard.
Lip Service. Gotthard.
Gotthard, c'est le bon Gotthard, mon Gotthard. Cher Marc. On va faire un peu de professeur.
Et un peu de géographie peut-être aussi.
Oui, c'est ça. Le Mont Gotthard, c'est en Suisse. C'est un groupe donc Sidesalarm.
Ah, mais moi je disais le Saint Gotthard. Moi.
Et voilà. Donc Gotthard, c'est un groupe suisse que j'aime énormément. Pareil, ça fait figure de groupe plus récent en fin de compte parce que Gotthard doit avoir une trentaine d'années. Ça peut paraître bête, mais c'est des groupes récents par rapport à du Maiden qui ont 50 ou 60 ans peut-être maintenant. Peut-être pas 60, j'extrapole. Mais une quarantaine, une cinquantaine d'années pour Maiden. Gotthard est beaucoup plus récent, mais j'ai adoré. Pareil, Gotthard sort un nouvel album dernièrement. récemment. Gotthard a eu une tragédie avec Steve Lee, qui était le premier chanteur du groupe, qui est malheureusement décédé accidentellement sur la route 66 en faisant le grand road en moto, et un camion l'a percuté. Il est mort directement au mois d'octobre de je ne sais quelle année. Ils ont continué quelques années après avec un autre chanteur, Nick Mader, qui est excellent. Je ne peux que vous conseiller Gotthard, c'est vraiment du bon hard rock. Tu aimerais, parce que pareil, il y a cette consonance hard rock blues qui est très très imprégnante. J'aurais pu en sortir tellement. Whitesnake, pareil, je ne l'ai pas marqué, mais on revient à ce que tu disais tout de suite. Moi-même, j'aime le blues. Je ne suis pas aussi pointilleux que toi, parce que toi, tu connais ça comme moi, je connais le métal. J'adore Joe Bonamassa, par exemple. C'est un artiste que j'aime énormément, que j'écoute régulièrement. Eric Clapton, bon, c'est des choses beaucoup plus généralistes, bien sûr, pour toi, quelqu'un plus pointu. Mais quelqu'un qui aime le hard rock comme moi ne peut pas renier ni ne peut pas aimer le blues, parce que c'est impacté dans beaucoup, beaucoup.
Et le blues, on peut le retrouver dans des groupes que tu n'as pas cités, mais sur lesquels on va développer bientôt dans Sweet Home Chicago, notamment Led Zeppelin.
Bien sûr.
Il y a Deep Purple, tu parlais de Whitesnake, il y a Rainbow aussi, qui a fait de très très belles choses. Enfin,
Ritchie Blackmore, oui.
Eh bien oui, Ritchie Blackmore qui reste dans mon petit panthéon là aussi, parmi les meilleurs guitaristes de rock, aux côtés de Angus Young par exemple.
Oui.
Qui malgré tout, malgré son côté un petit peu autocaricatural, il reste un très très grand technicien. Voilà, un bon guitariste est-il forcément un grand technicien? Un grand technicien est-il forcément un bon guitariste? Ça, le débat reste ouvert quand même.
Pour moi, c'est une question de feeling.
Ben oui.
Voilà, c'est bon. On pourra toujours débattre et se dire qui. D'ailleurs, eux-mêmes se revendiquent jamais de dire je suis meilleur guitariste quoi que ce soit. Ce qui est certain, en tout cas, j'aime bien parce que, comme tu dis, AC/DC, il y a sa touche. Tu reconnais Angus. Ça c'est certain, il y a ce côté blues, on parlait de Nuno Bettencourt extrême, il y a ce côté un peu gitan derrière. Ils ont tous une petite patte qui fait que ça c'est important, c'est très dur je trouve en tant que guitariste. Un chanteur, tu reconnais son timbre de voix, tu le connais. Une guitare, à la base tu te dis bon bah c'est une guitare.
Ben pourtant, il y a des signatures sonores.
Voilà, tu me fais écouter, je vais dire pour moi ça sonne comme lui, Rainbow, Ritchie Blackmore bien sûr.
Tu mets Ritchie Blackmore d'un côté, Alvin Lee de l'autre.
Jimmy Page, pareil.
Ben oui.
Donc,
Et il y a également un artiste que tu as choisi pour cette fin d'émission, Greg. Ouais. Qui s'appelle monsieur Bon Jovi.
Ouais, alors là, franchement.
Origine italienne.
John Francis Bon Jovi, ouais, tout à fait. Là, alors là, on retire le côté très objectif. Vous pourrez sortir n'importe quelle merde.
Donc on arrive
que
au Nirvana de ce que tu aimes, de ce que tu préfères.
Oui, parce que. Bah, pour qui, pourquoi?
Ça synthétise tout?
Ça synthétise pas tout. Bon Jovi, en tout cas, a eu ce côté intelligent, en tout cas, de se fondre dans la masse à chaque fois. Là où tous les groupes sont tombés après le grunge, parce que dans les années 90, le grunge est arrivé avec Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Beaucoup de groupes sont tombés dans les abysses, les Poison, tout ça. On a complètement oublié le hair metal. Bon Jovi a sorti l'album Keep the Faith à ce moment-là. Ils ont chaque fois réussi à se renouveler. Donc on peut pas dire non plus que Bon Jovi soit obligatoirement un groupe de hard rock, mais clairement je ne suis strictement pas objectif. Bon Jovi, c'est pour moi Bon Jovi, et après le reste de la musique. J'ai connu Bon Jovi avec l'album Keep the Faith, Dry County exactement. C'était sur MTV à l'époque, j'étais dans les Vosges. Et on avait MTV à l'époque là-bas. Moi, en Normandie, je crois que MTV n'était pas vraiment ici. C'était parce qu'on était proche de l'Allemagne. Et donc les clips passaient régulièrement et Dry County était là et je sais pas pourquoi. Paf, ça m'a fasciné.
Ouais.
Et je suis tombé complètement dingue de ce groupe.
Alors, Dry County, ce titre-là en particulier que tu vas nous faire écouter, qu'on va écouter en entier à la fin de cette séquence My Rockers, Greg. Je suis allé voir un petit peu les paroles. C'est pas tout à fait optimiste. Hein. C'est carrément... tu t'écoutes ça, tu te tires une balle, quoi.
Oh, il n'y a pas que ça. Hein. Leon's on me, Keep the Faith, Living on Prayer, You Give Love, Bad Name. Il y a quand même beaucoup de consonances dans Bon Jovi qui sont quand même très optimistes. C'est quand même un groupe qui a tendance à vouloir voir les choses assez bien. Dry County, peut-être que oui, de fait, les paroles sont un peu plus tristes.
Bah, je te remercie de contrebalancer parce que j'avais l'impression, alors moi ne connaissant pas trop l'artiste, sauf de réputation comme j'allais dire un petit peu tout le monde, je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ces paroles, quoi?
Ah non, du tout, du tout. Bon Jovi, au contraire, a ce côté très revendicateur de se dire, on peut réussir. C'est très américain.
Alors lui, il s'engage politiquement, côté démocrate.
Tout à fait.
Il est dans le milieu du cinéma également, un milieu qui n'était pas tout à fait étranger, Greg.
Ah, bien sûr, ouais.
Ça t'est arrivé de le voir sur scène?
Le groupe, oui.
Le groupe, oui.
Ah, pour te raconter une anecdote point. Alors première fois j'y suis allé comme ça, j'étais une place complètement éclatée à Bercy et frustré de me dire bon ok, je suis là, je vois Bon Jovi, mais je vois le point en train de chanter.
Ouais, il est à 145.
Voilà. Deuxième fois à l'époque mon ami me dit tiens si tu veux on y va ensemble. Elle me dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je prends deux places ou éventuellement, mais là ça coûtait un bras parce que ça remonte à très loin, malheureusement Bon Jovi ça fait longtemps qu'il ne passe plus, ou alors je prends une place Carré Or. J'étais très égoïste et très salaud, je fais, je vais prendre Carré Or tout seul.
Ouais, d'accord. Ah ouais.
Il m'a tapé dans la main. Depuis, je ne lave pas, tu vois, la main est noire.
Il t'a tapé dans la main.
Eh ouais. Alors ça, en premier, en deuxième en tout cas, en anecdote, et là on revient un petit peu à toi, ce que tu peux rencontrer régulièrement par le biais du blues et de la radio. J'ai eu l'opportunité et la chance d'interviewer Richie Sambora, qui est le guitariste de Bon Jovi. J'avais eu le... c'est un truc de dingue, t'as ton numéro fixe chez toi en Normandie qui sonne, et là on te dit hello, it's Richie Sambora.
Ah oui.
Et là tu fais waouh. Le mec, il est au bout de ton téléphone. Mmh. Et c'est pour moi, c'est comme toi, je pensais.
Ah, bah quand
pour
tu
moi,
peux parler à tes héros, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire.
Voilà pour les anecdotes de Bon Jovi.
Ouais, complètement. On écoute Bon Jovi, donc avec ce titre que je te laisse présenter, Greg, puisque tu fais de la radio. Tu fais. Oh, tu es dans ton émission. Je te laisse la toute dernière minute, c'est pour toi.
Et je vous laisse continuer avec Radio 666, Bon Jovi, l'album cultissime Keep the Faith et l'excellent morceau Dry County. A tout de suite sur l'antenne de 666.
Merci, Greg. À bientôt.
seems sometimes that death leaves you feeling like a dirty whore. If I could choose the way I die, make it by the gun or knife. Cause the other way there's too much pain. Night after night after night after night. Come on down in Dry County with a swimmer.
Radio.
Blues Actu Radio.
Blues Actu Radio.
Blues Actu Radio.
My Rockers, c'est aussi sur Blues Actu Radio. C'était le 59e My Rockers avec Greg Bellery et on a pu écouter pas mal d'extraits musicaux. Guns N' Roses, It's So Easy, Queen avec Keep Yourself Alive, Survivor, Eye of the Tiger, AC/DC avec Realize, Muse pour Apocalypse Please, Iron Maiden dans Prowler, Gojira, Born for One Thing, Def Leppard avec Woman, Angel City, No Secrets, Ozzy Osbourne avec Mama, I'm Coming Home, Wasp, I Wanna Be Somebody, Extreme, Decadence Dance, Van Halen, Eruption, Ugly Kid Joe avec Everything About You, Iron Maiden, Wasted Years, Avantasia, Lost in Space, Billy Idol, White Wedding Part 1, Slash avec le chanteur Brian Johnson pour Killing Floor, Gotthard pour Anytime, Anywhere, AC/DC avec Thunderstruck, et là on vient d'entendre en entier Bon Jovi, Dry County, extrait de Keep the Faith, enregistré en 1992. Pour tous les détails de la playlist, je vous engage à aller directement sur le site de l'émission bluesradio.fr. On va terminer avec les incontournables.
Oh, yeah. What can a man do?
Les incontournables, une semaine sur deux dans Sweet Home Chicago, avec cette fois-ci Patrick Payard qui m'a demandé de revenir sur l'album Blues from Laurel Canyon, enregistré en 1968 par John Mayall, et dont voici le très calme et très cool Laurel Canyon Home. C'est avec ceci qu'on termine cette première heure.
Each and every morning, when the sun is high, I hunt around the canyon till I find a place to lie. It's so beautiful to be got the sun and trees and silence. I'm in my Laurel Canyon home. Looking back a century, I look at where I stand. It must have looked the same as when a patches roam the land. Ooh. It's so beautiful to be alone. sun and trees and silence. I'm in my Laurel Canyon and silence. I'm in my Laurel Canyon home.
C'était John Mayall avec Laurel Canyon Home. On était en 1968. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure avec notre invité du jour, Laurent Galichon de Red Beans and Pepper Sauce. À tout de suite.